L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Delhomme pour l'instant addicto. J'ai vraiment un grand plaisir de recevoir Nicolas Parlierne, sociologue, qui a réalisé un travail de thèse énorme sur l'objet alcool. Et on va pouvoir, pendant 4 émissions, pouvoir échanger ensemble. Même si c'est sur un quart d'heure, c'est un peu frustrant, Nicolas Parlierne. Mais au moins, ça sera une belle introduction par rapport à tout ce travail d'investissement intellectuel que vous avez pu avoir. Bonjour Nicolas Parlierne.
Bonjour Sophie.
Donc on va, pour cette première émission, échanger un peu sur le regard sociologique par rapport à votre thèse. Et je me posais la question de la place de l'addictologie dans toute cette sphère sciences sociales, médicalisées, puisqu'on se rend compte, mais moi je me rends compte, en ayant une formation de sciences humaines, de philosophie, et en étant praticienne en addictologie, que l'addictologie a une place vraiment centrale au niveau des cliniciens, au niveau qui est hyper médicalisé. Et on se dit, dans votre regard de sociologue, quelle place peut avoir l'addictologie, puisque le thème central de votre thèse, c'est sur l'alcoolologie.
C'est vrai qu'on peut toujours avoir une double question sur cet objet-là, c'est-à-dire on peut toujours s'interroger sur la place qu'a la sociologie dans l'addicto, et inversement, quelle est la place des consommations de tous ces produits psychotropes. Je m'arrêterai en tout cas sur le versant addicto au comportement de consommation de produits, hein. On peut avoir d'autres formes de comportement addict sans produit. Parce m'intéressera, ça sera plutôt les consommations. Donc on peut s'intéresser effectivement à la place que ces consommations ont dans les différentes sciences humaines. Et on peut toujours assez s'étonner par rapport à la place que l'alcool a, notamment dans notre société, française, qui a assez peu de sociologues finalement à travailler sur ces consommations-là, alors qu'il y a une forte demande du côté de l'addicto d'avoir des approches sociologiques ou historiques.
Historiques, elles sont un peu plus communes en addictologie. On peut voir un peu l'évolution du boire, par exemple, la place après des stupéfiants qui sont rentrés à l'intérieur. Et comment on peut expliquer, à votre avis, ce clivage qu'il peut y avoir entre les cliniciens et les sciences sociales? Ça ne veut pas dire que les cliniciens ne doivent pas faire leur travail. Heureusement qu'ils sont là par rapport aux patients. Mais voilà, cette réflexion des sciences sociales reste toujours très, très minime. Et on se rend compte, le travail de thèse que vous avez fait sur X années est énorme pour nous interroger par rapport à l'alcool. Alors d'un côté, je me dis que c'est une toute-puissance du médical. Ou est-ce que... Mais ça nous gêne. Que ça nous gêne en France parler de l'alcoolologie?
Alors, ça peut renvoyer effectivement à des enjeux de pouvoir et d'autonomie des disciplines. C'est vrai qu'il y a une forte demande, on va dire, une demande sociale d'avoir un regard sociologique sur ces questions-là, ce qui peut s'entendre. Il y a aussi une demande de la part de l'addicto, parce qu'on est souvent sur un modèle, vous le connaissez, un modèle biopsychosocial, avec peut-être des variations historiques au sein même de ce qu'on va appeler l'alcoolologie ou l'addictologie. On a, à mon sens, plutôt un renforcement assez... plutôt les sciences neurologiques qui dominent un peu cette question-là. C'est souvent ce qu'on entend dans les différentes émissions. En tout cas, ce qu'on peut lire sur cette presse-là. Donc, on aurait tendance à penser que les sciences humaines sont un petit peu délaissées sur ce côté-là. Donc, je pense que ça peut s'entendre aussi sur une réticence de certains sociologues, de certains chercheurs à occuper la place qui leur est finalement dictée par ceux qui dominent ce champ addicto. Donc c'est plutôt les médecins, c'est plutôt les psychiatres qui dominent ça. Donc il y a eu longtemps des guerres, on va pas revenir sur toute les plusieurs décennies entre la sociologie, la médecine, la psychiatrie, cette entente-là. Donc il peut y avoir une réticence effectivement des chercheurs en sciences humaines à occuper une place qui leur est dictée, et au contraire à garder leur autonomie de regard sur la question. Et puis on peut quand même concevoir aussi qu'il y a une pluralité des chercheurs en sciences humaines qui peuvent s'accorder ou non avec les perspectives, puisque là aussi il y a une diversité des cliniciens ou de la psychiatrie ou de la médecine à apporter cet objet. Donc certains sociologues peuvent très bien facilement travailler tout en gardant une spécificité sociologique. Je pense par exemple à une approche en termes d'inégalité sociale de santé, où là on va très bien s'entendre avec les catégories portées par la médecine, et on va plutôt s'intéresser à la distribution sociale de ces phénomènes. Est-ce que dans certains groupes sociaux, dans certaines catégories sociales, on va retrouver davantage de personnes qui ont des troubles avec tel ou tel produit? Et puis à l'inverse, il y a d'autres sociologues qui ne vont pas forcément s'entendre avec les définitions médicales, avec les définitions psychiatriques, et qui vont avoir un regard beaucoup plus critique, et qui vont pas forcément, on va dire, s'entendre avec certains addictologues.
Donc ça peut être des querelles de clochers entre cliniciens et sciences sociales, et à l'intérieur même des sciences sociales, sans que ça soit idéologique, on se rend compte que la méthodologie va être un peu différente d'un sociologue. L'accès aux soins, comme vous le précisiez, l'accès aux soins par rapport aux inégalités, on se rend compte qu'on peut trouver un accord commun, alors que par exemple l'addictologie, ça reste, est-ce que ça intéresse moins, est-ce que ça reste plus difficile, ou est-ce que les neurosciences ont pris, on voit bien l'addictologie, on parlait d'alcoolologie, de toxicomanie avant les années 90, on a modifié le curseur. On a pu en parler ensemble déjà par rapport à la crise du sida. Fort heureusement, les médecins ont mis les mains dans le cambouis à l'époque, avec la réduction des risques aussi en 95, mais ça reste encore problématique.
Ça reste problématique. Comme je disais, ça dépend toujours de la place qui est attribuée ou qui est laissée entre les disciplines. On peut souvent avoir une césure, mais qui finalement renvoie à la répartition entre le normal et le pathologique. Le pathologique va être laissé au clinicien et le normal serait laissé justement aux chercheurs en sciences humaines qui vont s'intéresser aux usages sociaux qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, qui ne relèveraient pas de la maladie ou de la pathologie. Et ce qui permet justement, c'est souvent ce qui est demandé aux chercheurs, de mettre la lumière sur ce que les cliniciens ne voient pas, ce qui échappe à l'hôpital, ce qui échappe au cabinet. Et donc pendant longtemps, notamment sur les usages de drogue, les chercheurs en sciences humaines ont pu apporter un autre regard sur cet objet-là en montrant justement qu'il y avait d'autres usages de drogue qui ne relèvent pas de la toxicomanie à proprement parler.
On va faire une pause musicale, Nicolas Palerme. On écoute La Blanche, Alcool.
Ce soir, pas moyen d'arrêter de boire. Je veux pas rester à la maison à regarder ma boîte à con. J'aime mieux une cirrhose hépatique qu'un cancer du sens critique. Je préfère les seins blancs des filles à toutes les soirées en famille. Promis, ce soir je n'en bois qu'un, ou alors deux, ou alors plein. Mais peut-être que ce serait bien mieux si je ne promettais rien. J'abuse avec modération, carpe diem et mort au con. Expérimenter les limites, c'est ma posture philosophique. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins décevant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins tragique, je ne serais pas alcoolique. Il y a une bombe atomique qui me fixe l'air extatique. Elle a dû repérer l'odeur, je sens l'homme moderne en chaleur. Je devrais être pris de panique. Heureusement, je suis alcoolique, alors je reste flegmatique et je lui lance un regard cosmique. Je plonge en son âme intrinsèque et j'enflamme la discothèque d'un pas de danse un peu mystique. Elle admire mon assurance, mon sexe à pile la met en transe. Je lui suppute, elle est séduite, déjà à la volupté la bite. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins marrant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins comique, je ne serais pas alcoolique. Je l'aborde l'air angélique, et puis l'on boit un gin tonic, puis une vodka tonique, et puis un n'importe quoi tonique. Qu'importe le futur quand on aime vivre vite.
Parce que j'ai
la tête comme un Spoutnik, les cernes de l'inspecteur Derrick, et une haleine antiseptique, mais je brûle comme un four en briques. Ça me perturbe la phonétique, me cause quelques soucis d'optique, mais c'est quand même assez pratique pour chauffer les filles sympathiques. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était plus différent, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si les choses étaient moins identiques, je ne serais pas alcoolique. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était plus différent, je boirais moins beaucoup souvent.
Donc Nicolas Palerme, par rapport à votre thèse en alcoolologie, on était en train de faire la différence, la place de l'addictologie au sein du clinicien, du monde médical, et par rapport à la place des sociologues et les sciences sociales en règle générale. Et justement, vous précisiez au niveau des drogues. Moi, souvent, je dis que le terme de drogue est un terme juridique. Et c'est intéressant de voir l'alcoolologie par rapport justement aux différents produits psychoactifs, ce qui est, nous, en addictologie, un produit psychoactif. Donc une fois, vous me disiez aussi, la drogue, il y a ce qui peut fasciner, ce qui peut être rejeté.
Oui, alors
c'est toujours par rapport à l'alcoolologie, pardon.
Voilà, alors c'est vrai qu'avec le paradigme addicto, on a eu tendance un petit peu à exploser les frontières du légal, de l'illégal. On va parler plutôt de produits psychoactifs, de produits psychotropes, à pas confondre avec les médicaments psychotropes, c'est vraiment au sens de produits psychoactifs. Et donc on a cassé un petit peu ces frontières-là pour repenser plutôt de manière plus large le rapport d'une personne avec un produit dans un contexte. Une fois qu'on a dit ça, Effectivement, ces frontières sont très arbitraires entre l'illégal et le légal. Mais néanmoins, d'un point de vue au moins sociologique, on peut considérer que les produits n'ont pas la même valeur parce qu'ils n'ont pas les mêmes usages. Et donc, même s'il est important de casser ces frontières-là, il importe quand même de penser les produits différemment parce qu'on les utilise différemment. Et donc, l'alcool va avoir encore une place particulière parce qu'effectivement, il ne va pas renvoyer aux mêmes imaginaires, aux mêmes usages, aux mêmes pratiques sociales que ne le sont les drogues. Ce ne sont pas les mêmes catégories de personnes qui vont les consommer.
Voilà, par rapport à cette catégorisation, est-ce qu'on peut dire que l'alcool, c'est un peu, on le trouve partout. L'alcool, c'est dans le supermarché, bien cher. On peut s'initier très jeune avec la famille. On en reparlera la quatrième émission à l'égard du public jeune par rapport à l'alcoologie. Mais oui, c'est facile. On le voit historiquement parlant.
C'est un produit qui va être beaucoup plus banalisé que le reste des drogues et qui va toujours relever de quelque chose qui, en tout cas en France et particulièrement pour le vin, on va avoir quelque chose qui relèverait toujours d'un aspect culturel, d'un aspect traditionnel qu'on va pas forcément retrouver effectivement sur les autres drogues. Et j'inclus le tabac dedans. On va avoir quelque chose qui, quand bien même on a beaucoup de discours qui visent à rappeler la toxicité de l'alcool, je rappelle qu'avec la transformation des nouvelles recommandations, il n'y a plus d'alcool zéro sans risque. Hein. Donc ça a tendance un petit peu à modifier notre représentation du vin. Pendant longtemps, on a parlé du French paradox, selon l'idée qu'une certaine quantité modérée serait bénéfique pour la santé. Aujourd'hui, on a arrêté avec ces discours-là. Mais néanmoins, on peut encore retrouver des résistances, y compris dans le discours vinicole, où on va défendre, voilà, mais là encore, plutôt sur l'aspect culturel, avec tous les enjeux économiques qu'il peut y avoir derrière. Mais ça laisse tout le monde penser que l'alcool a encore une place qui serait particulière par rapport aux autres produits.
Donc on peut dire que c'est un produit qui reste très banalisé par rapport à d'autres produits, on va dire, même le tabac qui est légal, et les autres produits qui peuvent être, comme je disais, on peut rejeter ou être fasciné par rapport au monde des drogues illicites, où il y a très peu d'expérimentateurs. On met le cannabis un peu à part, mais qui est hyper banalisé maintenant. Mais le reste, ça touche peu de personnes. On s'en compte même, moi, en étant sensible à tout ce qui est colloque scientifique ou autre. Mis à part la Société française d'alcoolologie, on reste encore sur la précarité et d'autres produits qui touchent une minorité, alors que l'alcool touche tout le monde. Et comme vous disiez, maintenant, les recommandations sanitaires, certains s'assoient dessus, même certains médecins. Hein. Oui. Mais je veux dire, il n'y a pas zéro toxicité avec l'alcool. Ça reste encore bancal, je trouve. Que ça soit politique, que ça soit même médical, tout dépend aussi des médecins. Quelle relation ils ont eux-mêmes avec le produit pour faire un repérage précoce en consultation médicale. Ça reste bancal, je trouve.
Parce qu'ils n'échappent pas non plus à la société dans laquelle ils vivent. Donc on va retrouver effectivement un imaginaire. Alors on va schématiser, caricaturiser. Mais au niveau de la drogue, on va retrouver effectivement soit quelque chose qui va vraiment diaboliser. Au contraire, hein, comme vous le disiez, on avait échangé avant l'émission, quelque chose qui va fasciner, c'est toujours autour de cela. Alors qu'à l'inverse, pour l'alcool, soit on va extrêmement banaliser. Ça va être quelque chose qui va pas être sérieux, qui va toucher au registre du comique, au registre du convivial, au registre quelquefois un petit peu de la normalité de nos échanges, notamment autour de la convivialité. Ou à l'inverse, on va tout de suite tomber dans le pathologique. Ça va être les comportements addictifs ou autres. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a quelque chose qui va modifier un petit peu nos représentations à partir du moment où on a considéré que l'alcool était un toxique au regard notamment du risque cancérigène que la consommation. C'est pour ça, c'est davantage dans ce sens-là qu'il y a plus d'alcoolisation zéro qui serait non toxique.
Et au niveau des approches, au niveau des distributions sociales, comme vous dites en sociologie, puisqu'on va faire une seconde émission sur le féminin, les femmes, et une troisième sur le masculin, les hommes, au niveau du genre, vous, pour introduire un petit peu nos deux prochaines émissions, Nicolas Palierne, quelle approche vous avez dans la distribution sociale de nos fameux rôles ?
Alors, ce qu'on retrouve effectivement au regard du genre, on va retrouver effectivement encore une distribution inégale des consommations, puisque les hommes continuent, quand bien même on soit sur une tendance générale de baisse de consommation dans le contexte français, on retrouve toujours des hommes qui boivent en moyenne davantage, avec une fréquence plus lourde et des quantités plus importantes de consommation.
Et au niveau du féminin, pour introduire un peu ces distributions sociales ?
Alors, au niveau des femmes, on va retrouver, disons, sur le plan plus qualitatif, une plus grande tolérance, voire dans certains contextes, un attendu de consommation qui pouvait ne pas se produire il y a quelques siècles, avec toujours un interdit dans certains contextes, par exemple, ne pas boire au volant, ne pas boire lorsqu'on est en grossesse ou lorsque l'on allaite. Donc il y a quand même des interdits spécifiques dans certains contextes, mais on peut retrouver une plus grande tolérance à l'égard, et là encore, de certaines catégories de femmes par rapport aux ivresses qu'on n'avait pas historiquement dans notre pays, mais même plus large en Occident. L'ivresse féminine a toujours été stigmatisée et le reste encore en grande partie. Mais on a en tout cas un affaissement, quand même une plus grande tolérance aujourd'hui.
Et pourquoi il y aura plus d'affaissement maintenant, à votre avis ?
Parce que historiquement, on a construit l'idée que les femmes seraient naturellement sobre. membres. Et aujourd'hui, on a, par des changements structurels, hein, notamment l'allongement des études chez les jeunes femmes, l'âge du premier enfant qui a reculé aujourd'hui, qui est plutôt autour de 30 ans. Donc on a une extension de ce qu'on pourrait appeler une adolescence, en tout cas une entrée dans la vie adulte qui n'est plus aussi précoce que de la génération d'avant. Donc on a, de par cette extension-là, des jeunes femmes qui ont une plus grande liberté finalement de pouvoir s'alcooliser. En tout cas, on a une extension qui fait qu'elles rentrent en maternité plus tardivement et donc elles ont une plus grande liberté pour pouvoir s'alcooliser dans ces contextes-là.
Merci Nicolas Pallière.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. L'instant addicto.